France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les jeunes Français de plus en plus sensibles aux stéréotypes de genre, les clichés sur les hommes et les femmes ont la peau dure, encore renforcés par les réseaux sociaux. Explication dans un instant. À suivre encore cet accord trouvé ce matin entre Chine et États-Unis. Après des semaines de menaces sur les droits de douane, ils vont augmenter, mais beaucoup moins qu'annoncé. Non, ce mouchoir en papier n'était pas un sachet de cocaïne. L'histoire de la fausse information qui a visé Emmanuel Macron ce week-end. Et puis la fin d'un très vieux conflit en Turquie. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour.
Les Kurdes du PKK renoncent à la lutte armée.
Oui, c'est la fin de plus de 40 ans d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, bombardements massifs de l'armée turque, attentats, combats meurtriers. Le PKK, la guérilla kurde, se dissout et abandonne la lutte armée, un moment historique, veulent croire la Turquie et les Kurdes.
A tout de suite en direct d'Istanbul. Nous parlerons également du trafic d'armes qui empoisonne la Martinique, du retour de la mobilette relancée par une entreprise de Châteauroux et de cet alpiniste qui a joué du violoncelle dans les Alpes à 3800 mètres d'altitude. À partir de 13h30, elle a présidé la Convention citoyenne sur l'aide à mourir. La sociologue Claire Toury est notre invitée. Les deux textes sur la fin de vie sont examinés à l'Assemblée. À partir de cet après-midi, 01 45 24 7000. J'attends vos appels pour être avec nous. Ce sera aussi le thème du C'est la France de notre linguiste Mathieu Avanzi. 13h45, notre feuilleton avec un métier devenu rare, tireur photo.
Pour moi, la photo, c'est un temps arrêté. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a peut-être besoin, à un moment donné, de s'arrêter, de prendre conscience de ce qu'est le temps, de ce qu'est la vie.
C'est Thomas Consagny, il travaille pour les plus grands photographes. Juste avant 14h, c'est une chanson. À quelques jours de sa prestation à l'Eurovision, Louane demande le groupe ABBA à Frédéric Pommier, sans oublier le menu météo de Sébastien Léas. Mais où est passé le soleil, se demande ce restaurateur de Marseille.
C'est dramatique. Ça fait 20 ans que j'ai cette affaire. On n'a jamais vu ça, autant de pluie, autant d'eau, autant de vent. Moi, je vois que j'ai plus de clients. J'ai plus personne. À cette heure-ci, normalement, c'est noir de monde. Regardez, il y a 3 clients. Vous les comptez ? 1, 2, 3.
1, 2, 3, première partie de printemps pluvieuse dans le sud et des orages pour cette semaine. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les hommes conduisent la voiture, les femmes s'occupent des enfants. C'est ce qu'on appelle des stéréotypes de genre, des images, des représentations qui empêchent les rôles justement d'être mieux répartis entre les hommes et les femmes. Eh bien, après avoir régressé pendant plusieurs années, ces stéréotypes progressent à nouveau chez nos jeunes. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
C'est un service du Premier ministre France Stratégie qui nous le dit aujourd'hui. France Stratégie a interrogé 1500 jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Et si la plupart admettent que filles et garçons apprécient les mêmes sports, jeux ou lectures, une majorité assigne les femmes à des rôles bien précis, explique Cécile Joly, chef de projet co-rapporteur de cette étude.
Un très fort ancrage de l'adhésion aux stéréotypes de l'assignation des femmes au care, c'est-à-dire aux soins des enfants et aux soins des autres d'une manière générale, et puis des stéréotypes très ancrés sur la soumission à l'apparence des filles et sur le devoir de protection des garçons.
Alors ces stéréotypes, ils s'atténuent à l'adolescence, mais seulement chez les filles, pas chez les garçons. C'est une source d'inquiétude, de crispation entre les sexes.
Et les réseaux sociaux ont joué un rôle dans ce retour en force.
On commence tout juste à le percevoir, mais oui, les contenus vers lesquels se tournent les jeunes renforcent ces stéréotypes, notamment chez les filles, avec beaucoup de diffusion de leur image, souligne Marine de Montaignac, autre co-rapporteur.
Par le biais des algorithmes, elles vont identifier que si elles adoptent ces contenus-là dans les contenus qu'elles produisent elles-mêmes, ils vont avoir plus de chances d'être populaires et donc elles peuvent être amenées à s'approprier les manières d'être qui ne sont pas forcément les leurs, mais dans l'objectif d'être populaires sur les plateformes et dans les réseaux.
Et propager à leur tour, à leur corps défendant ces stéréotypes, il faut donc rapidement renforcer l'autorégulation des plateformes, défend Clément Beaune, commissaire général de France Stratégie.
On parle de quelques influenceurs et de quelques plateformes en réalité. Se concentrer sur ceux qui ont le plus d'audience, le plus d'influence, qui ont une responsabilité particulière et qui ne peuvent pas s'en dédouaner, eh bien je pense que c'est ça l'enjeu de la régulation européenne dans les mois qui viennent.
Une régulation complexe, déjà difficile à appliquer sur les questions d'incitation à la haine ou à la violence, elle pourtant punie par la loi.
Merci Faustine Calmel. C'est une pratique qui est courante aux États-Unis ou aux Pays-Bas, mais pas en France. La vente de médicaments à l'unité, elle n'est autorisée dans notre pays que pour de rares produits, se concerner par des risques de pénurie. Mais en Corrèze, sur le plateau de 1000 vaches, deux pharmaciens ont décidé de généraliser cette vente à l'unité. Pour éviter de trop puiser dans leur stock, ils viennent d'être sanctionnés par l'Ordre régional des pharmaciens. Leurs officines pourraient devoir fermer pendant quelques semaines, Jérôme Osterman.
Une pratique en dehors du cadre légal, mais qu'ils assument parfaitement vendre depuis déjà 5 ans, non pas forcément par boîte entière, mais à l'unité, pour faire face à la pénurie de certains médicaments, lutter contre le gâchis et aussi, dans certains cas, éviter que des patients sombrent dans la dépendance. Antoine Priou, pharmacien à Sornac, en Haute-Corrèze.
Pour avoir géré des pénuries, fait du bon usage des médicaments, c'est comme si j'avais à moitié tué quelqu'un, quoi. Alors qu'en fait, ce qu'on fait est pertinent sur le plan du soin. Si on n'a pas la possibilité de faire correctement notre travail, on prend des risques, on en assume les conséquences et aujourd'hui, on a été très durement sanctionné.
Une interdiction d'exercer de 6 mois, dont 4 avec sursis. Une sanction d'autant plus injuste pour Antoine Priou que s'il ne trouve pas de remplaçant, ce sont 2 pharmacies en secteur rural qui risquent de fermer pendant plusieurs mois.
Si on trouve un pharmacien pour exploiter la pharmacie en notre absence, ça pose pas de problème, la pharmacie ne ferme pas. Mais aujourd'hui, on a des difficultés terribles de recrutement de pharmaciens. Donc si la peine s'applique au même moment pour nous deux et qu'on trouve pas de pharmacien, ça veut dire que les pharmacies ferment pendant 2 mois. Donc en termes de perte de chance et d'accès aux soins, c'est prendre des décisions qui sont complètement irresponsables.
Antoine Priou, pour qui vendre des médicaments à l'unité n'est pas du tout une manière de faire de l'argent en plus, c'est un acte militant. Et à ses yeux, il faut que ce sujet arrive enfin dans le débat public.
Dans notre modèle économique, le fait de dispenser des médicaments, ça nous profite économiquement. Plus les gens sont malades, plus moi je vais gagner ma vie. Et je supporte plus ça.
Bon, reportage ici Limousin, et l'essor de cette vente de médicaments à l'unité est toujours envisagé par l'assurance maladie pour réduire nos dépenses de santé, nous dit Victor Deland, notre spécialiste santé. Pays incontournable sur le marché du médicament, la Chine, ce secteur était d'ailleurs et comme d'autres au cœur du bras de fer commercial avec les États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et bien ce matin, les deux plus grandes puissances de la planète ont trouvé un accord. Nous serons à Pékin dans un instant. Avant cela, direction la Suisse où cet accord a été conclu. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Genève. Jérémy, les taxes vont quand même augmenter par rapport à l'avant Trump, mais beaucoup moins que prévu.
Ouais, il était temps qu'un accord soit trouvé parce qu'avec 145%, 245% même dans certains cas de droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis et 125% pour les produits américains achetés par la Chine, les échanges étaient devenus quasi impossibles. Désormais, Washington appliquera une taxe de 30%, Pékin 10%. C'est toujours plus qu'avant le retour de Donald Trump au pouvoir, mais son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, estime qu'il s'agit d'une avancée majeure après 2 jours de négociations ici à Genève, dit-il, très fructueuse.
Il y a eu beaucoup de respect des deux côtés. On a conclu qu'on avait un intérêt commun à des relations commerciales équilibrées. Les droits de douane extrêmement élevés qui ont été imposés jusqu'ici étaient l'équivalent d'un embargo sur le commerce. Et ni la Chine, ni les États-Unis ne souhaitent ça. Nous voulons un commerce équilibré et les deux parties, je crois, sont prêtes à ça.
Et l'âge de guerre est un peu enterré, mais on n'a pas sorti le calumet de la paix pour autant. La pause est, on l'a dit, temporaire. Les négociations doivent se poursuivre aux États-Unis, en Chine ou dans un pays tiers, dit le communiqué conjoint. Les nouveaux tarifs douaniers doivent rentrer en vigueur, si tout se passe bien, d'ici mercredi.
Merci Jérémy Lanche, en direct de Suisse pour Inter. Sébastien Berriot, je me tourne vers vous. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Chine. Les deux pays étaient allés très loin dans la confrontation, vu de chez vous. Comment s'explique cette soudaine détente ?
Alors, l'une des explications, c'est la position de fermeté que la Chine a maintenue depuis le début de la crise. Le régime communiste, vous le savez, a inlassablement répété qu'il irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Depuis l'annonce de l'accord cet après-midi, les internautes sur les réseaux sociaux chinois expriment leur fierté d'avoir poussé les États-Unis à négocier et à baisser leurs droits de douane et obtenir ce qu'un internaute appelle un cessez-le-feu commercial de la part de Donald Trump. C'est un vrai soulagement, en tout cas pour une économie chinoise qui reste largement dépendante du grand marché américain, qui donne chaque année à la Chine quelque 500 milliards de dollars de revenus. Les taxes douanières inédites imposées par Donald Trump étaient vécues comme une sorte d'embargo. Et dans certains ports chinois, ces dernières semaines, les départs de navires vers les États-Unis avaient presque cessé. Avec cet accord, le trafic maritime devrait pouvoir reprendre. Le régime parle de progrès substantiels et espère que les États-Unis continueront de coopérer. En effet, tout le monde ici est conscient que ce résultat reste fragile et que Donald Trump peut à tout moment durcir à nouveau ses positions après la pause de 90 jours.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin. Là, la tension reste très forte entre France et Algérie. On a appris ce matin qu'Alger avait décidé d'expulser de nouveaux diplomates français, d'où la réaction ce matin du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
C'est une décision qui est incompréhensible et qui est brutale. Le départ d'agents en mission temporaire est injustifié et injustifiable. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. Et je le précise, c'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie ni dans l'intérêt de la France.
Le ministre des Affaires étrangères en déplacement à Pont-l'Évêque dans le Calvados ce matin. Entre Russie et Ukraine, des négociations pourraient débuter cette semaine. En Turquie, Vladimir Poutine a proposé ce week-end des discussions directes aux Ukrainiens à partir de jeudi, mais sans parler d'un cessez-le-feu préalable. Cessez-le-feu compte exiger samedi à Kiev 4 chefs d'État et de gouvernement européens, les premiers ministres polonais, britanniques, le chancelier allemand, ainsi que le président français Emmanuel Macron. Et ce voyage a donné lieu à une intense campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Avec un objet plutôt inattendu au cœur de la controverse, un mouchoir en papier appartenant à Emmanuel Macron.
La scène se passe dans le train pour l'Ukraine, autour de la table Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Sur les images, on voit le président français faire disparaître prestement un mouchoir frassé qui traîne devant lui. Que cache Macron ? S'interrogent des internautes qui disent deviner là un sachet de poudre et une cuillère à cocaïne. Quasi instantanément, la vidéo devient virale, visionnée des millions de fois, abondamment relayée dans les sphères complotistes à grand renfort de zoom et de ralenti. La porte-parole de la diplomatie russe la partage dans une boucle Telegram. En France, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot s'en font l'écho.
À tel point, Laurélie, que l'Élysée a choisi hier soir de démentir.
Avec un post sur X, une photo zoomée du fameux Kleenex. Ceci est un mouchoir pour se moucher. Et à côté, l'image des trois dirigeants. Ceci est l'unité européenne pour faire avancer la paix. La présidence de la République fustige une fausse information propagée par les ennemis de la France à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça illustre en tout cas une nouvelle stratégie du côté de l'Élysée. Face aux fausses infos, se taire ne fonctionne plus, nous dit un conseiller.
Donc il faut répondre.
Exactement. Pour les plus graves et ou les plus virales, la riposte est de mise. Il y a 10 jours, l'Élysée avait démenti avec un gros tampon rouge falso un article de la presse italienne qui affirmait qu'Emmanuel Macron voulait s'immiscer dans le conclave. Ça reste malgré tout la première fois ici que le compte officiel de la présidence sur X répond directement aux complotistes.
Merci Laurélie Carrive pour ces explications. Ce matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé s'être entretenu avec le pape Léon XIV. Pour la première fois, il l'a, dit-il, invité en Ukraine. Le pape qui, lui, a appelé lors d'une rencontre avec la presse à la libération des journalistes emprisonnés dans le monde. Et voilà donc une région de la planète où un conflit armé est en train de s'éteindre. C'est la Turquie où le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a donc annoncé ce matin sa dissolution après plus de 40 ans de lutte armée contre l'État turc, une guerre civile qui a fait plus de 40 000 morts. Marie-Pierre Véraud, on vous retrouve en direct d'Istanbul. Le PKK a donc décidé de déposer les armes.
Et oui, affaibli par les bombardements massifs de l'armée turque ces dernières années, alors que la donne a changé aussi dans la région avec un rapprochement entre les Kurdes de Syrie et Damas et que la population kurde en Turquie est épuisée par la guerre, le PKK estime en effet que le temps des armes est révolu. Dans son communiqué, il précise que son combat a permis de faire exister la question kurde et que des processus démocratiques peuvent donc prendre le relais des combats. Alors, que veut-il dire ? Eh bien, c'est la reconnaissance dans la constitution turque de l'existence d'un peuple kurde et de sa langue que demande le PKK au gouvernement turc et à l'Assemblée nationale. Et c'est maintenant que tout va en quelque sorte commencer, car l'annonce de la dissolution et du dépôt des armes n'est que le début d'un long cheminement. Beaucoup de détails restent inconnus. Comment, où, à qui ces armes seront-elles remises ? Quid du sort des commandants de la guérilla, des milliers de prisonniers, malades, âgés et des prisonniers politiques ? Et puis surtout, quelle contrepartie à cette dissolution ? La Turquie doit encore faire connaître sa réponse.
Marie-Pierre Véraud, correspondante d'Inter en Turquie.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Les deux semaines à venir s'annoncent particulièrement graves à l'Assemblée nationale. Les députés examinent à partir de cet après-midi en séance les deux propositions de loi sur la fin de vie. L'une concerne les soins palliatifs avec la création d'un droit opposable. L'autre, plus controversé, l'aide à mourir. Un débat que le gouvernement aborde avec une infinie prudence. Plusieurs de ses membres sont opposés, voire très réservés sur ce texte. Et la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, va ainsi défendre des amendements pour encadrer encore davantage le recours à l'aide à mourir. Pour quelles raisons, Lise Rosveille ?
Eh bien, pour obtenir le texte le plus consensuel possible et tenter de rassembler une majorité. Une proposition de loi qui élargit trop l'accès à l'aide à mourir risque de refroidir certains députés. Catherine Vautrin pousse donc pour un texte modéré en fixant un cadre plus strict. Elle veut intégrer la notion d'irréversibilité de la maladie. Seuls les patients au pronostic vital extrêmement engagé auront accès à l'aide à mourir et réintroduire le délai de réflexion de 48 heures. La ministre de la Santé espère ainsi rassurer ceux qui jugent le texte aujourd'hui trop déséquilibré. On le voit, il y a des réticences au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau répète régulièrement son opposition. La porte-parole Sophie Primas l'a aussi laissé entendre ce matin. Et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a dit hier sur France Inter. En l'état, selon lui, le texte va trop loin. Et puis dans l'hémicycle, au centre, notamment chez Horizon ou Ensemble pour la République, des députés hésitent encore. Ils attendent justement de voir comment le texte évolue pendant les débats pour décider de leur vote.
Et on en reparle à partir de 13h30 avec nos invités et avec vous. J'attends vos appels, questions et témoignages. 01 45 24 7000. Fin de vie, fiscalité, retraite. On verra si le président de la République retient l'un de ses domaines demain soir lors de son émission de télévision sur TF1 pour convoquer un référendum. Il avait évoqué ce souhait lors de ses derniers vœux. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui a déjà dit sa préférence pour une consultation des Français sur l'immigration. Et bien justement, sur ce dossier, une contribution remarquée aujourd'hui, celle du cercle de réflexion Terra Nova, classé à gauche. Il estime que si la France veut préserver son modèle social, et bien notre pays va devoir accueillir entre 250 000 et 310 000 nouveaux immigrés chaque année à partir de 2040. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez lu ce travail, ces estimations sont au-dessus du niveau actuel ?
Alors oui et non, c'est un peu moins que le niveau de 2022 où on a atteint 331 000 nouveaux immigrés entrants, mais beaucoup plus que la moyenne des années 2010 par exemple, où on était plutôt autour de 245 000. Premier constat des auteurs de ce rapport, malgré une plus grande pauvreté, hein, c'est vrai, cette part de la population née à l'étranger et installée en France est paradoxalement celle qui contribue le plus à la solidarité nationale de par sa force de travail. On regarde là le différentiel entre cotisations sociales versées et prestations sociales reçues en fonction des territoires. Et puis, le rapport se projette donc en 2040 et même en 2070 en testant tout un tas d'hypothèses démographiques, zéro immigration et baisse de la natalité, faible immigration et baisse de la natalité, ou bien maintien d'un taux de fécondité à un niveau relativement supérieur. Et le résultat est sans appel, sans immigration et à un niveau relativement soutenu, et bien la population active va baisser et ce qu'on appelle le ratio de soutien démographique va se dégrader. En clair, on aura un gros problème de financement de nos retraites, mais aussi plus globalement de notre modèle social. Des auteurs, l'essayiste Hakim El Karoui et l'économiste Joubaïa Daden, qui se défendent de tout parti pris idéologique en refusant, disent-ils, de se positionner sur le terrain des valeurs et qui ne sont d'ailleurs pas tendres avec l'ensemble de l'arc politique, accusant la droite et l'extrême droite de ne parler que d'immigration et le Parti Socialiste de ne jamais en parler.
Merci Claire Chaudière. Cela va coûter plus cher que prévu. Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans le département de la Meuse. Cigéo, c'est son nom, doit accueillir dans des galeries à 500 mètres sous terre, les déchets les plus dangereux de nos centrales nucléaires. Ils vont rester là pendant plusieurs centaines de milliers d'années. 83 000 mètres cubes sont attendus. La moitié sont déjà produits. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Bon, jusque-là, le chiffre avancé, c'était 25 milliards. Cigéo pourrait en fait coûter entre 26 et 37 milliards d'euros.
Oui, ce montant couvre la construction du site pendant une vingtaine d'années, une centaine d'années d'exploitation et puis la fermeture du site à l'horizon 2170. En 2016, la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, avait estimé le projet Cigéo à 25 milliards d'euros. L'évaluation actuelle de l'ANDRA est au-dessus. Dans la fourchette haute. Il faut 12 milliards de plus. Pour autant, il n'y a pas eu de dérapage financier, martèle l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, chargée du projet Cigéo, sa directrice générale par intérim, Gaëlle Saquet.
C'est un coût qui est quand même globalement maîtrisé, puisque la précédente estimation de l'ANDRA était de 33,8 milliards d'euros. Les surcoûts sont liés en grande partie à des coûts qui ne sont pas des coûts de construction, ce sont les hypothèses de fiscalité. Pour remettre aussi l'enjeu de Cigéo, c'est bien de mettre en sécurité les déchets les plus radioactifs. On ne rognera pas sur le niveau de sûreté du centre.
Du côté des antinucléaires, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, le CEDRA, dénonce un manque de transparence des gouvernements successifs sur le coût réel du projet. Son porte-parole, Jacques Leray.
On n'est pas du tout étonné de cela. On se souvient de l'estimation de Mme Ségolène Royal, à l'époque ministre de l'Environnement en 2016, qui avait fixé à 25 milliards, sans aucune explication, le coût de Cigéo. Et j'ai l'impression que plus on va avancer dans le projet, plus ça va coûter cher si on veut garantir la sécurité.
Et le coût de Cigéo pourrait encore grimper car il ne prend pas en compte le projet de relance du programme nucléaire français, le stockage des déchets issus des 6 futurs réacteurs EPR2.
Sandy Dauphin, en Martinique, la montée de la violence pousse le maire de Fort-de-France à en appeler à l'État pour lutter contre la circulation des armes. Hier matin, 3 hommes ont été tués par balle, le ou les tireurs sont en fuite et la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée, Manuel Leclerc.
On ne flingue pas comme ça pour un motif futile à 5h du matin à la sortie d'une boîte en plein centre d'une grande ville comme Fort-de-France. Confié ce matin une source policière, d'abord le mode opératoire avec 3 hommes, tous armés, un scooter pour s'enfuir rapidement. L'une des premières explications du mobile serait le vol d'une forte somme d'argent dans un camping. Argent de la drogue ou non, c'est ce que devra déterminer l'enquête de la police judiciaire. Ce qui est sûr, c'est que selon nos informations, l'une des victimes avait été condamnée pour avoir percuté involontairement un gendarme en 2017 alors qu'il pilotait un bateau aux Anses d'Arlée sous cocaïne, un homme soupçonné à l'époque d'être lié à de gros trafiquants de drogue. Pour ce qui est des armes, là encore pour cette fusillade, on a 3 hommes armés qui rafalent à bout portant. Une autre source policière évoque ces 12 morts tués par arme à feu en l'espace de 5 mois à la Martinique avec une multiplication d'opérations de police et de gendarmerie depuis plus d'un an après les déclarations de l'ancienne procureure de la République évoquant une circulation massive des armes, un phénomène que l'on n'arrive pas à enrayer, sachant que sur chaque livraison par bateau de drogue venant des petites îles voisines, il y a systématiquement avec la marchandise une ou plusieurs armes.
Emmanuel Leclerc, en Saône-et-Loire ce matin, une femme d'une 50aine d'années a été tuée par balle à Chauffailles, dans le sud du département. Cela s'est passé en pleine rue. Un homme a été interpellé dans la matinée dans le département voisin de la Loire. Selon le parquet, il s'agit du compagnon de cette femme qui était en instance de divorce et qui avait déposé plainte contre cet homme. En Haute-Savoie, le pompier volontairement renversé lors d'un rodéo urbain samedi matin est toujours dans un état stable entre la vie et la mort, selon la préfète du département interrogée ce matin par nos confrères d'ici Pays de Savoie. Que s'est-il passé à la SNCF ces derniers jours? La grève des conducteurs et des contrôleurs, débutée il y a 7 jours, s'est achevée hier soir. Elle a été plutôt bien suivie, mais les perturbations de trafic sont restées plus limitées que lors des derniers épisodes de grève. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les syndicats de la SNCF ont-ils perdu de leur capacité de blocage?
Elle a pris un sacré coup en tout cas cette capacité. Force est de constater que la direction a réussi à la contourner par le recours, comme on sait, on en a beaucoup parlé, de ces cadres volontaires qui ont pris la place des contrôleurs en grève, des personnels habituellement dans les bureaux qui en sont descendus pour assurer le service, payés 15 à 50 euros de l'heure en plus de leur salaire. Un procédé très limite, selon Sudrail, qui réfléchit toujours à porter l'affaire devant les tribunaux pour cassage de grève. Uh-huh. Une grève qui s'est jouée sur la communication, où la direction a peut-être aussi été plus fine. Par exemple, Sudrail n'a pas hésité à mettre des doutes ce week-end sur le nombre véritable de trains en circulation. Pour faire simple, selon le syndicat, la direction aurait sciemment fermé les réservations très tôt pour ce 8 mai, donc réduit les places en vente et fait circuler des TGV simples plutôt que des rames doubles. Moins de trains, des trains plus petits, voilà ce qui aurait permis à la direction de communiquer très tôt sur une circulation quasi normale, mais surtout plus facile à tenir. Version démentie, vous l'imaginez bien, catégoriquement par la SNCF.
Merci Maxime Debs, on va changer de moyen de transport, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs Maxime, avec cette marque mythique qui est en train d'être relancée. Mobilette, un entrepreneur de Château Autoroues vient de reprendre le nom de la marque et il est en train de concevoir un cyclomoteur électrique capable, Jérôme Collin, de rouler jusqu'à 45 km/h.
Moteur électrique, écran digital sur le guidon, batterie amovible, le cyclomoteur se veut moderne, mais Marius Tonsen, qui travaille sur le prototype, s'est quand même pas mal inspiré des anciens modèles de mobylette.
Tous les équipements, que ce soit la fourche, les freins, la selle, on voulait vraiment retrouver entre guillemets comme un cockpit de moto pour que les personnes soient à l'aise. Donc toutes les personnes qui l'essayent nous disent qu'ils se sentent vraiment comme sur la mobylette d'avant.
On pourra rouler jusqu'à 45 km/h, c'est plus rapide qu'une trottinette électrique et moins bruyant qu'un scooter. Deux véritables atouts selon Jackie Tonsen.
On va leur démontrer que la mobylette électrique, on voit bien la puissance maintenant des moteurs et des batteries. Ça va aussi vite que le 103 Peugeot que j'avais à l'époque. Ce qu'on a choisi, c'est de faire quelque chose de plus léger possible. Par exemple, ça va se mettre très facilement dans un camping-car, par exemple. On va pouvoir faire du tout-terrain avec.
Pour ce fan de deux roues, la mobylette, c'est le symbole de la liberté.
C'est ce que je dis toujours, le plus beau jour de ma vie, c'était à 14 ans. D'un seul coup, j'ai pu prendre mon vélo, je l'ai accroché sur le clou dans le garage et je lui ai dit, toi, tu ne me reverras plus jamais. Parce que j'étais fils d'agriculteur dans la campagne, à 2 km du bourg, et d'un seul coup, j'étais dans le bourg tous les jours. Enfin, c'était le début de la liberté.
Une vingtaine de mobylettes sont déjà en phase de test. L'entreprise Tonsen attend aussi l'homologation officielle du cyclomoteur électrique pour envisager une commercialisation en 2026.
Reportage ici, Berry. Certains trouveront que c'est un drôle d'endroit pour jouer du Jean-Sébastien Bach au violoncelle. L'arrêt des Cosmiques en Haute-Savoie. Oh, on est en altitude, 3800 mètres d'altitude face au Mont-Blanc. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Arthur Pointdefer, c'est le nom de cet alpiniste et violoncelliste. C'était en avril, cet exploit, il vient de publier la vidéo.
Oui, vous entendez ce vent, Jérôme. Nous sommes à 4000 mètres d'altitude face au Mont-Blanc. Un violoncelle sur le dos, cet alpiniste escalade à main nue ce piton rocheux inaccessible au commun des mortels. Le voici donc au sommet de l'aiguille du Midi, face à l'immensité du ciel, posé sur ce bloc de granit au-dessus des nuages, moment suspendu, mais également défi sportif pour cet alpiniste et musicien de 22 ans, Arthur Pointdefer.
Avec 70 kg de matériel et le violoncelle, ça n'a pas été facile. Donc il y a des problèmes de froid, de vent, donc c'est vrai que rester immobile même plusieurs minutes comme ça, parce que j'avais déjà les doigts complètement entaillés par le rocher. Et là-haut, bah, c'était vraiment juste beaucoup de joie intense et presque un peu d'euphorie, quoi.
Une euphorie qui demande des années de pratique et des semaines de préparation. Arthur Pointdefer est membre du groupe Excellence, alpinisme national et musicien. Il réalise ce rêve fou de concilier ses deux passions au sommet de l'aiguille du Midi.
Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé sur le glacier quand je faisais l'escalade, qui étaient aussi très contents de passer ce moment un peu hors du temps là-haut avec moi. Et puis j'ai joué jusqu'au coucher du soleil. Hein.
Hommage également à un autre violoncelliste et alpiniste, Maurice Baquet, qui en 1956 a ouvert une des voies les plus historiques de la face sud de l'aiguille du Midi, la voie Rébuffa Baquet.
Un musicien au sommet. Merci Laurent Kramer. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, nous parlons de la fin de vie. La proposition de loi, les propositions de loi sont débattues en séance à l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi. Elles se sont inspirées des travaux de la Convention citoyenne réunie il y a 2 ans. Sa présidente Claire Toury est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions sur ce texte. J'attends aussi vos témoignages. 13h45, notre feuilleton. Nous passons cette semaine avec un tireur photo, celui qui réalise le tirage des négatifs. Et ça se passe pour notre homme en noir et blanc. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, notre linguiste, vous allez essayer de nous divertir avec les mots de la mort.
C'est ça, casser sa pipe, passer l'arme à gauche, sonner au glas. On peut mourir de mille façons, du moins dans les mots. Et si nos expressions pour parler de la mort en disaient long sur notre rapport à elle.
Et elle change en fonction de nos régions, vous allez nous préciser tout cela. Et avec vous Frédéric, une chanteuse dont on va beaucoup parler cette semaine.
Mais oui, la chanteuse Louane, révélée il y a 12 ans maintenant par l'émission The Voice, et qui représentera la France samedi au concours de l'Eurovision. Avec elle, nous écouterons le groupe ABBA, qui était l'un des deux groupes préférés de sa maman.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France 2, demain soir. Pour la première fois, nous allons emmener des Français sur les traces de leurs ancêtres. Esclaves, armateurs, capitaines de navires.
Cette histoire nous concerne tous.
Aux origines, l'esclavage, un documentaire événement, demain soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
France Inter, partenaire du concert symphonique de Bernard Lavillier, Métamorphose.
Je voudrais travailler encore
travailler encore. Assez rouge. Et main dans.
Le mercredi 25 juin au Théâtre Antique d'Orange.
On the road again. On the road again.
Métamorphose, Lavilliers symphonique avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Encore des averses au programme aujourd'hui.
Oui, un front pluvieux a traversé le pays hier et va s'étaler cet après-midi entre les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, le Sud-Alsace, la Franche-Comté et les Alpes. Sous ce front, les averses sont régulières et parfois orageuses. Un peu de grêle sera même localement possible en fin de journée. Les averses seront aussi assez actives avec des risques d'orage sur la Bretagne et les Pyrénées, ainsi que sur la Corse, l'arrière-pays provençal, l'Auvergne et le Sud-Bourgogne. Entre la Normandie, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Limousin, la Vendée et les Charentes. Le temps sera un peu plus lumineux et les averses seront plus isolées, ce qui n'exclut pas quand même un petit coup de tonnerre. Et puis l'après-midi sera plus ensoleillé entre les côtes landaises et basques jusqu'au midi toulousain, au Languedoc et aux plages de la Côte d'Azur. Et puis le Bas-Rhin sera aussi, lui aussi protégé, gardera du soleil cet après-midi. L'air doux qui régnait ce week-end s'attarde justement sous ce soleil du Bas-Rhin avec encore jusqu'à 24 degrés à Strasbourg cet après-midi. Mais ailleurs, les maximales vont baisser et seront souvent un peu juste pour la saison. Prévoyez 17 à 22 degrés en général avec 20 degrés pour Paris, Lyon et pour Toulouse.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Claire Toury.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes sociologue, présidente du mouvement associatif. J'ai découvert ça, c'est-à-dire que vous représentez toutes les associations de France, c'est ça ?
Une sur deux.
Une sur deux, c'est déjà considérable. Et vous avez aussi assumé le poste à charge pendant quelques mois de présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. C'était entre l'automne 2022 et le printemps 2023. Il y a eu deux conventions citoyennes, dont celle sur la fin de vie, qui débouche donc, deux ans plus tard, sur deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Et ces deux textes sont examinés à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale en séance. Ça va durer pendant deux semaines.
Exactement.
On va en parler ensemble. Je voudrais qu'on parle aussi, s'il nous reste un tout petit peu de temps à la toute fin de cet entretien, des référendums et des moyens de consulter les Français. C'est aussi un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et
ouais,
on sait qu'Emmanuel Macron doit faire des annonces
demain
sur ce sujet demain soir, exactement, à la télévision. 01 45 24 7000 pour vos questions à notre invité, pour témoigner également. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à le faire. Des réserves aussi des témoignages importants et aussi des satisfactions. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui d'abord, Claire Toury? Est-ce que c'est un jour historique? Vous qui avez présidé cette convention pendant plusieurs mois, vous dites quoi? Enfin, ce sujet arrive en séance à l'Assemblée nationale?
Oui, je pense qu'on est en train de vivre un moment assez historique. Alors vous allez me dire, on ne vit pas que celui-ci en ce moment, mais celui-ci est assez intéressant à souligner. Peut-être pour revenir un peu en arrière. En septembre 2022, le Conseil économique, social et environnemental est saisi par la première ministre Elisabeth Borne à l'époque pour organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Et alors la question, si mes souvenirs sont bons, était la suivante: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Et pour répondre à cette question, pendant 4 mois, entre décembre 2022 et avril 2023, 184 citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité de la population française, ont bossé pendant 9 week-ends, 27 jours, de façon absolument remarquable, pour aboutir à une réponse très claire, mais aussi très nuancé, et c'est ça qui est intéressant dans le moment qu'on vit, avec une partie qu'on appelle le « quoi qu'il en soit », qui vise à renforcer les soins palliatifs, qui correspond finalement au premier texte rapporté par Annie Vidal, et une partie moins consensuelle, mais quand même assez nette, sur l'aide active à mourir, puisque 75% des citoyens de la Convention se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir, sous conditions, des conditions qui se rapprochent en réalité de ce que la proposition de loi portée par Olivier Falorni propose.
Vous dites aujourd'hui, cette partie-là du texte sur l'aide active à mourir, elle est proche des recommandations de la Convention citoyenne d'il y a deux ans ?
Oui, elle est assez proche. Je ne sais pas si pour tous les auditeurs, auditeurs, c'est très clair, hein, mais la proposition de loi qui va être débattue à partir de cet après-midi, oui. Donc il y aura peut-être encore des modifications. La ministre de la Santé a annoncé...
Le gouvernement le souhaite,
voilà.
Il y a eu des amendements déposés pour encadrer encore, d'aucuns diraient restreindre encore les possibilités d'accéder à l'aide active à mourir.
Donc on ne sait pas comment, dans quelles conditions elle sera votée le 27 mai, mais il y a plusieurs conditions qui sont posées. Le fait d'être majeur, donc ça fait partie aussi des recommandations de la Convention citoyenne, français ou résident sur le territoire français. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable. Voilà, donc ça c'est aussi important. Avoir un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. Alors ça aussi, ça reste de changer puisque la Haute Autorité de Santé propose de préciser en parlant d'irréversibilité. Être atteint de souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable. Et point très important, être capable d'exprimer clairement son souhait et donc de faire preuve de discernement au moment de la demande et au moment de l'acte.
Manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Avant de prendre un premier témoignage, juste un point lexical et de mots dans le vocabulaire, parce qu'on va beaucoup en parler dans les prochaines semaines. La différence entre euthanasie et suicide assisté, Claire Toury.
Alors, l'euthanasie, ça veut dire que c'est un tiers qui injecte le produit qui va entraîner la mort, tandis que le suicide assisté, ça veut dire que c'est la personne qui va mourir, qui veut mourir, qui doit s'injecter elle-même le produit, le tout étant systématiquement encadré, accompagné par le personnel médical, puisque dans la proposition de loi, c'est très clair, hein, euthanasie ou suicide assisté, le médecin, l'infirmier, le soignant sera à côté pour intervenir en cas de besoin.
Donc on est là sur du suicide assisté, et l'objectif du gouvernement, c'est que ce soit le plus possible le patient qui lui-même prenne injecte le produit.
Mais c'est pas ce qu'il y a dans la proposition de loi. La proposition de loi, c'est les deux, c'est le libre choix.
C'est ça, d'où les amendements déposés par la ministre. Je voudrais qu'on accueille Caroline Résibois. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Amiens. Vous êtes la veuve de Loïc Résibois et ce nom va parler à beaucoup de nos auditeurs. Loïc Résibois avait 47 ans. Il était atteint de la maladie de Charcot. Il est mort le 24 septembre dernier. Votre mari avait dit qu'il ne souhaitait pas vivre au-delà du mois de septembre car son état de santé s'était dégradé. Il souffrait et il a subi une sédation profonde et continue qui est autorisée aujourd'hui par la loi. Hein, la loi Claeys-Leonetti depuis 2016. Vous-même, Madame Résibois, vous avez été à ses côtés pendant toutes ces années. Vous avez mené ce combat avec lui et vous demandez aujourd'hui l'aide active à mourir. Qu'est-ce que vous dites en ce jour ? C'est un jour historique, et Claire Toury a repris ce mot, où vous êtes beaucoup plus réservée.
Non, je suis de l'avis de Madame Toury. Je suis persuadée en effet que c'est un jour historique, que ce texte de loi est très attendu par de très nombreux Français et moi-même, évidemment, je l'attends impatiemment.
Est-ce que votre mari aurait été concerné par ce texte et par les dispositions qui pourraient entrer en vigueur s'il venait à être voté ?
Oui, tout à fait. Il aurait été directement concerné, il remplissait les critères. Et le fait est que lui n'a pas pu évidemment en bénéficier puisque ce texte n'existait pas encore et qu'il a fallu en effet, il n'a pas eu d'autre choix que de recourir à la sédation profonde et continue. Ce qui l'a obligé, il l'a dit suffisamment de fois et c'est ce qu'il craignait, on l'a obligé à aller au-delà de ses limites et au-delà de ce qu'il aurait souhaité en termes de dignité humaine. Voilà, il n'a pas eu d'autre choix que de faire comme cela.
Il aurait pu partir plus tôt si ce texte avait été voté il y a quelques années.
Il aurait pu partir plus tôt, il aurait pu demander en effet à partir plus tôt, puisque là, en fait, lui, il n'avait pas accès à ce texte-là. Il avait simplement accès à la loi Claeys-Leonetti, qui prévoyait en fait que les patients atteints de maladies graves et incurables, mais en stade terminal, pouvait demander la sédation profonde et continue. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais le stade terminal, c'est quelques jours, enfin quelques heures à quelques jours avant le décès. Donc, il a vécu cet été un enfer. Il a subi des choses absolument terribles. Il a souffert énormément et il a fallu attendre qu'un médecin puisse lui l'autoriser à avoir cette sédation profonde et continue, ce qui n'a pas été non plus une mince affaire puisque il a connu des épisodes de détresse respiratoire qui n'ont pas pour autant permis d'accéder à cette sédation profonde et continue parce que le médecin a estimé que son état de santé était encore jugé trop bon alors qu'il était tétraplégique, qu'il ne pouvait plus manger tout seul,
Il fallait encore attendre.
Il fallait encore attendre. Mmh. Il fallait encore attendre. Donc ça, c'était absolument insupportable à entendre, et à la fois pour le patient et à la fois pour la famille, parce qu'on ne comprenait pas.
Je vous soumets, Caroline Résibois, le témoignage de Claude qui nous envoie ce message de grâce et qui nous dit « Je suis une ancienne infirmière, je ne comprends pas que ce soit au personnel soignant d'intervenir sur la fin de vie. D'une main, on nous demanderait de soigner et de l'autre, on nous demanderait de donner la mort. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je ne parle pas de donner la mort, je parle de soulager des souffrances qui sont devenues insupportables. Donc en fait, c'est une libération, je pense que c'est un acte de soin et c'est un accompagnement ultime vers la délivrance d'une maladie qui est de toute façon, enfin, dont on connaît la fin inéluctable. Donc voilà, pour moi, ce sont des choses que je ne comprends pas forcément. Ouais.
François nous appelle de Houille. Bonjour François.
Bonjour.
Région parisienne, nous vous écoutons.
Ma question est simple, elle concerne l'aide active à mourir. Je voulais savoir à quoi servent maintenant en France les directives anticipées.
Merci François. Vous-même, vous avez rédigé des directives anticipées ?
Je les ai rédigées il y a 3 ans et je les ai faites enregistrer par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.
Merci François pour cette question. Claire Toury.
Oui, alors je réponds à la question, puis après je viens réagir sur un autre point. Les directives anticipées, ça ne change pas grand-chose en réalité, puisque les directives anticipées, elles permettent de clarifier, le fait d'être réanimé ou pas, le fait de donner ses organes ou pas, le fait d'être plongé en sédation profonde et continue ou pas. En fait, ça ne concerne pas tout à fait la même chose. L'aide active à mourir, pour en bénéficier si la proposition de loi est votée, ça ne pourra pas passer par des directives anticipées, puisqu'il faudra être en capacité d'exprimer.
Manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Au moment de la demande.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, on ne peut pas écrire dans des directives anticipées à partir de tel moment, je veux partir, ça n'existe pas.
Non.
Ou je veux bénéficier d'une sédation.
Non, vous pouvez dire que vous ne voulez pas être réanimé, vous pouvez dire que vous ne voulez pas qu'il y ait une intervention déraisonnable, etc. Ça, c'est déjà possible, mais vous ne pouvez pas dire qu'en cas d'accident, en cas de maladie d'Alzheimer qui entraînerait ça ou ça, enfin non, c'est pas possible.
Vous voulez réagir sur les soignants ou anciens soignants, et on entend les réserves de Claude, qui sont celles d'autres soignants, elle n'est pas la seule.
Ouais, en fait, moi je crois qu'il ne faut pas se tromper. La fin de vie, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un sujet qui peut rassembler largement la société plus que la diviser. Et on l'a bien vu avec la Convention citoyenne. Vous allez me dire, c'est un échantillon qui correspond à 184 personnes, donc c'est une mini-France d'une certaine façon. Mais pendant 4 mois, et je vous assure, je l'ai vécu, c'était passionnant, c'était hyper riche d'enseignements, des gens qui pensent de façon très différente, des soignants, des non-soignants, tous les bords politiques, tous les âges, tous les territoires, toutes les catégories socio-professionnelles ont réussi à travailler ensemble pour construire un chemin qui soit accepté par le plus grand nombre sur un sujet qui est hyper difficile parce que personne n'a tort et personne n'a raison. Et c'est ça qu'il faut dire. Et il me semble que le moment qu'on est en train de vivre, la raison pour laquelle il est historique, c'est parce que c'est une occasion en or de pouvoir apaiser la société française.
Mais vous comprenez que la ministre Catherine Vautrin veuille encadrer encore davantage les conditions, quitte à limiter au fond le nombre de personnes qui pourront avoir recours à cette aide à mourir.
Si j'ai bien suivi ce qu'elle a annoncé, ce qu'elle veut proposer, il n'y a pas de surencadrement en réalité par rapport à ce qu'il y a dans la proposition de loi, si ce n'est de préciser le caractère irréversible, parce qu'il y avait un débat initialement sur pronostic vital engagé à court terme ou à moyen terme, et en fait on se rend compte que c'est pas si simple, donc ça va pas changer grand chose. Après, là où il y a un débat, mais ça c'est un débat ce sera au législateur de trancher, est-ce que le suicide assisté doit être la règle et l'euthanasie l'exception, ou est-ce qu'il faut permettre les deux? Et là je rapporte les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est bien suicide assisté et euthanasie qui ont été proposés, demandés par les citoyens de la Convention.
On a beaucoup d'appel, je voudrais qu'on prenne Séverine. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Pour un témoignage, je précise que vous nous appelez de Paris, mais que vous êtes belge.
Oui, tout à fait.
Nous vous écoutons, Séverine.
Voilà, je voulais rapidement témoigner. Donc, je suis belge, j'habite à Paris depuis de nombreuses années, j'ai encore de la famille en Belgique, et j'ai accompagné cette année mon frère qui, lui, était toujours resté habiter en Belgique, dans une demande d'euthanasie. Et donc, il est décédé au mois d'avril dernier. Donc, je voudrais préciser par rapport à ce qui a été dit précédemment sur le choix des soignants. En Belgique, bien entendu, on se fait... Alors, c'est très encadré, ces demandes d'euthanasie. Et puis, les soignants ont le choix de se positionner s'ils souhaitent faire partie des soignants qui pratiquent l'euthanasie, je ne sais pas si pratiquer est le bon mot, ou s'ils ne souhaitent pas. Donc les soignants ont le choix. Mais par rapport au débat en France, que je suis bien évidemment de très près, je voudrais dire que toute avancée qui pourra se faire me semble une bonne chose. Et surtout, je trouve qu'elle va réparer une injustice sociale. Car on sait très bien qu'il y a de nombreux Français avec les moyens financiers qui vont en Suisse ou qui vont en Belgique.
Et d'autres qui ne peuvent pas y aller, c'est ce que vous voulez nous dire, Séverine.
Exactement.
Merci pour ce témoignage. Je fais réagir Claire Toury sur la possibilité en Belgique, nous dit Séverine, pour les soignants de faire valoir leur clause de conscience. Exactement.
Oui, ça fait aussi partie du texte qui sera débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée. À aucun moment il est question de retirer leur clause de conscience aux soignants. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé par les citoyens de la Convention. Il ne s'agit pas d'opposer les soignants et les autres. Il s'agit de construire une réponse sociétale et sociale et de faire en sorte que chacun s'y retrouve autant que possible.
Caroline Résibois, le modèle français qui est en train d'advenir sous nos yeux, on verra ce que donnent les discussions, il se rapproche un peu de ce qui se passe en Belgique ou pas du tout ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, complètement. On est voilà, exactement. Après, il y a des choses qui vont certainement, des amendements qui vont venir en effet compléter tout ça, mais je pense que c'est un bon... Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en ai lu et de ce dont on avait parlé aussi avec Loïc il y a quelques mois, ça correspond tout à fait à un besoin et je pense qu'on est bien parti.
Merci Caroline Résibois d'avoir été avec nous pour évoquer la mémoire de votre mari Loïc et le combat qui vous a animé tous les deux pendant des années et que vous continuez de porter aujourd'hui. D'un mot, Claire Toury, je l'ai dit, intervention d'Emmanuel Macron demain soir, peut-être annonce de référendum. Est-ce qu'il est temps, selon vous, de revenir vers les Français, de les consulter à nouveau?
Alors sur quoi? C'est ça la question. Donc vous savez qu'il y a une nouvelle convention là, qui a été annoncée sur les rythmes de l'enfant, qui va être organisée aussi par le CESE.
Vacances, temps de travail, repos.
Et donc ça c'est hyper intéressant et c'est surtout très intéressant qu'elle arrive après que la loi ait été, je l'espère, les lois aient été, je l'espère, votées à l'Assemblée nationale. Après, concernant le référendum, moi, je pense qu'on est dans un moment démocratique hyper compliqué, mais bon, c'est un peu frappé au coin du bon sens quand je vous dis ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vit un moment historique en réalité. Il y a la fin de vie, bien sûr, il y en a encore pour pas mal d'années avant que ce soit effectif. Hein, ouais. Ça va aller au Sénat, revenir à l'Assemblée, repartir au Sénat, etc. Mais là où on vit un moment historique sur le plan démocratique, c'est que c'est un texte, c'est une loi, c'est un cadre qui a été co-construit par plein de gens. Le comité d'éthique d'abord, la convention citoyenne ensuite, la société civile aussi, les parlementaires désormais. Enfin voilà, et ça, c'est absolument puissant. Ça rappelle que les citoyens ont du pouvoir d'agir et je crois qu'on a absolument besoin de ça en ce moment.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, nous sommes avec un artisan cette semaine, artisan dont le métier est devenu très rare. Thomas Consagny est l'un des derniers tireurs photos noir et blanc de notre pays. À 54 ans, cela en fait maintenant 37 qu'il exerce. Il travaille pour les plus grands photographes et il passe ses journées dans un labo au sous-sol d'un immeuble, quartier de la Bastille à Paris, où l'a retrouvé notre reporter Thibaut Cavaillès.
Alors là, vous êtes au laboratoire Picto, laboratoire professionnel parisien, un des plus vieux. Et on est dans la finition, le lieu où il y a des photos accrochées au mur. Belmondo, Jean Seberg, photographié par Raymond Cochetier. Serge Gainsbourg, Jane Birkin, photographié par Tony Frank. En dessous, Nina Simone par Guy Le Querec. Alfred Hitchcock par François Granon.
Tout ça, ce sont des photos tirées chez vous?
Non seulement tirées chez nous, tirées par moi, parce que je ne me permettrai pas d'accrocher des photos qui ne sont pas tirées par moi, et sans l'autorisation des photographes aussi. Donc là, c'est un tirage à faire pour Dominique Tarlet, qui a photographié les Rolling Stones en 72 à la Villa Nelcote, dans le sud de la France. Donc ben là, j'ai le négatif, et puis on va rentrer dans le labo. Donc le labo est où ? Ce qu'on appelle la chambre noire. Je trouve ça plus joli, c'est plus romantique, on va dire. Donc une chambre noire, ça se compose d'un agrandisseur, ça se compose de bacs, de petites lumières orangées, comme on voit dans les films, ça s'appelle des lumières inactiniques. Là, je suis en train d'enlever la poussière. À partir du moment où je le mets dans le passe-vue et c'est projeté sur le margeur, mes yeux ont complètement analysé les contrastes, les densités. Et déjà, je sais ce que je vais maquiller et à peu près combien de temps, à 2, 3, 5 secondes près. Donc là, on voit, c'est une photo des Rolling Stones. Dessus, bah, il y a Keith Richards, Anita Pallenberg, Graham Parsons. Bon, alors là, donc, il y a le négatif dans le margeur. Voilà. Et je place la feuille papier. Je vais déclencher. Merci. Et pendant les 25 secondes, je passe ma main sur tous les personnages et le sol pour les éclaircir, parce qu'ils vont être trop sombres sur les 25 secondes.
Elle danse, votre main, c'est un peu des ombres chinoises.
Ouais, c'est ça, on nous appelle les danseurs de lumière, en fin de compte. Pour moi, la photo, c'est un temps arrêté. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe voilà, dans le monde, on a peut-être besoin à un moment donné de s'arrêter, de prendre conscience de ce qu'est le temps, de ce qu'est la vie. Et quand je vois une photo de 1972, lui, Dominique, il a arrêté ce moment-là. Et 53 ans après, d'avoir ce négatif-là, oui, il y a de l'émotion.
Depuis quand vous faites ça, Thomas ?
1987. J'ai appris ce métier-là grâce et avec mon père. J'ai eu cette chance-là. C'est à l'âge de 17 ans, je suis rentré ce qu'on appelait à l'époque arpète dans son labo. J'avais arrêté les études. Il m'a appris le métier de tireur. Alors ça a été à la fois une très très belle et bonne école. Et d'un autre côté, assez sévère, mais pas sévère comme pourrait être un professeur de danse russe à la grande époque. Mais il était intransigeant avec la qualité d'un tirage qui devait sortir, ce qui est tout à fait normal et que je conçois de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas trahir un photographe. Quand un photographe vient vous voir avec ses négatifs, avec ses idées, avec ce qu'il a envie, on doit respecter. Et ça passe par le dialogue avec le photographe en amont. À chaque fois que je démarre un travail photographique, que ce soit une exposition ou pour un livre, ou même pour des collectionneurs, je veux rencontrer le photographe.
Et justement, demain, rencontre avec une grande photographe, la franco-américaine Jane Evelyn Atwood.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h51. Notre linguiste Mathieu Avanzi est avec nous pour nous parler des mots du français de nos régions. Et on va reparler des débats sur la fin de vie avec vous, cher Mathieu, puisque vous avez enquêté sur les mots utilisés partout en France pour désigner la mort.
Oui, Jérôme, tout d'abord, ce qui frappe quand on parle de la mort, c'est qu'on évite de le faire. Prenez le mot lui-même, mort, quand on y pense bien, c'est un mot qui est lourd, qui est brutal, sans détour. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le contourne, on l'adoucit, on dit rarement « il est mort », on va dire plus volontiers « il s'est éteint »,« il nous a quittés », parfois ce sont des expressions tendres, hein. « Elle est partie pour un long voyage, elle n'est plus de ce monde », et d'autres fois, c'est presque poétique. « Il a rejoint les étoiles, elle a franchi le dernier seuil ». Ce qu'on fait au fond, c'est qu'on cherche des façons de dire qui permettent d'adoucir la douceur, d'envelopper la réalité dans des mots qui sont plus supportables. En rhétorique, ce procédé a un nom, euphémisme. Et des euphémismes de ce genre, on en trouve partout, même là où on s'y attendrait le moins, comme dans le langage administratif, par exemple. Prenez le projet de loi dont on parlait avec votre invité, Claire Toury, à l'instant. Il porte pas sur la mort assistée, mais bien sur la fin de vie.
Et on retrouve ces euphémismes également dans les régions, avec parfois, Mathieu, des expressions qui sont bien ancrées dans les traditions locales.
Oui, si on prend l'expression « sonner le glas » aujourd'hui, on l'utilise surtout au sens figuré pour annoncer la fin de quelque chose de manière irréversible. Mais à l'origine, le glas désigne une réalité très concrète, c'est la cloche d'une église qu'on faisait sonner à l'annonce d'un décès. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée de prévenir la communauté par le son d'une cloche est longtemps restée très répandue en France, jusque dans les années 70. C'est d'ailleurs très codifié dans certains villages, puisque les tintements des sonnailles n'étaient pas les mêmes selon qu'il fallait annoncer le décès d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Et quand il s'agissait d'une personnalité importante, on faisait sonner autant de coups que le défunt avait d'années. Alors, revenons à nos régions. Justement, dans les régions, on ne disait pas sonner le glas, on disait sonner les cloches. On faisait bien sonner les cloches pour annoncer l'enterrement d'un membre du village, mais les mots s'adaptaient au parler local. Un peu comme si l'annonce, elle prenait l'accent du coin. Alors, dans le sud-est, par exemple, on ne sonnait pas le glas, on sonnait le clair. Le clair, ici, il fait écho à la lumière. Il permet, d'une certaine façon, de conjurer le côté un peu lugubre de la mort. En Bretagne, on sonnait au trépas, en Savoie, on sonnait au défunt, dans le Massif central, à l'agonie, et dans l'Aveyron, on sonnait la fin ou le dernier coup. Une formule simple, presque pudique, qui dit l'essentiel sans en faire trop.
Ça change quelque chose de dire les choses ainsi ?
Et ça change beaucoup, en fait. Les expressions régionales ne sont pas seulement des euphémismes, elles traduisent d'une certaine manière une manière locale, culturelle d'appréhender la mort, une mort moins médicale, moins administrative, moins technique peut-être, parce que c'est bien ce que la langue régionale nous enseigne. Il n'y a pas une seule façon d'en parler, la mort elle est universelle, mais nos manières de la dire ne le sont pas. Et dans ces débats complexes sur la fin de vie, où il est question d'aide à mourir, de choix personnels, de dignité, retrouver des mots simples, ceux que les gens utilisent pour évoquer leurs proches, peut aussi nous aider à mieux écouter et peut-être à mieux décider.
Je sonne donc la fin de cette chronique, en tout cas pour aujourd'hui, Mathieu Avanzi. On vous retrouvera avec plaisir lundi prochain. Mais restez avec nous évidemment pour le C'est une chanson de Frédéric Pommier. Frédéric, c'est la chanteuse Louane que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Louane qui représentera la France cette semaine au concours de l'Eurovision. Et c'est justement un groupe qui a remporté l'Eurovision en 1974 qu'elle a souhaité que l'on écoute. Ce groupe, c'est ABBA.
ABBA, c'est l'un des deux groupes préférés de ma mère. Il y avait ABBA et Queen. Et ces deux groupes, je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé à écouter parce que je pense que ça a fait partie de ma vie. C'est-à-dire que je vais être excessive, mais il y a une possibilité que je l'ai entendu en étant dans le ventre de ma mère, quoi.
Donc c'est une musique qui a bercé votre enfance.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça va bien plus loin que ça parce que ça continue à être hyper présent dans ma vie. C'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, j'ai une petite playlist qui est une playlist pour la salle. Et en fait, je ne monte jamais sur scène tant que la chanson d'ABBA n'est pas passée. C'est-à-dire que la dernière chanson que le public entend avant que j'arrive, c'est une chanson d'ABBA. Parce que j'ai choisi de mettre un peu d'ambiance avant que j'arrive et je rentre avec une chanson absolument dépressive et le contraste est très drôle.
La chanson d'ABBA qui précède du coup votre arrivée sur scène, c'est laquelle ?
C'est Dancing Queen.
Et dans la vie de tous les jours, à part avant de monter sur scène, c'est un groupe que vous continuez à écouter beaucoup ?
Très souvent, très très souvent, et que je fais écouter à ma fille aussi. C'est un groupe qui fait partie de ma vie absolument tous les jours. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. With a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while.
Cette chanson, Frédéric, n'est pas la plus connue du groupe ABBA. Son titre, Slipping Through My Fingers.
Traduction filante entre mes doigts. Une chanson de 1981 qui ramène notamment Louane au tout début de sa carrière, il y a 12 ans, quand elle a été révélée par l'émission The Voice.
C'est une chanson qui parle de l'amour d'une mère pour sa fille et de la difficulté à laisser son enfant quitter le nid. Et effectivement, c'est une chanson qui me parle beaucoup parce que moi, j'ai quitté... ma maison assez tôt, je suis partie à 16 ans, donc c'était assez difficile. Et moi, ayant perdu ma maman, c'est une chanson qui me fait énormément penser à elle. Et de façon absolument trop tôt dans ma vie, je me projette pour quand ma fille partira de chez moi.
Elle a 4 ans.
Bah oui, elle a 4 ans, mais si elle fait comme moi, dans 12 ans, elle part. Hein.
Qu'est-ce qui était le plus difficile en partant à 16 ans ?
Très honnêtement, moi j'avais un rêve et je voulais tout faire pour, donc je pense que c'était difficile pour ma famille plus que pour moi. Parce que d'un coup je suis arrivée, je vivais à Paris, enfin je vivais à Saint-Denis, dans un hôtel au début, collé à des plateaux télé. C'est pas quelque chose d'hyper évident. Et petit à petit j'ai commencé à vivre chez des gens de mon entourage, petit à petit j'ai fait plein de petits appartements. Et mon père est parti juste avant que je parte vivre à Paris et ma mère pendant que j'étais à Paris.
Quand vous dites qu'ils sont partis, ils sont décédés ?
Oui, ils sont décédés. Et ils n'ont pas vu la suite, mais ça n'a pas été simple.
Est-ce que ça fait grandir plus vite que de quitter ses parents si tôt ?
Oui, c'est sûr. J'ai eu ce changement de vie très intense et à la fois j'ai perdu mes parents. Donc oui, je pense que j'ai grandi très très vite. Et à la fois, je pense que j'étais vraiment très bébé.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez besoin d'écouter par moment ?
Complètement. C'est une chanson que j'ai besoin d'écouter, c'est une chanson qui me fait pleurer, c'est une chanson que j'adore chanter aussi. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien composé, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est une chanson que ma fille aime beaucoup aussi, et c'est hyper important pour moi de donner à ma fille un amour de la musique, mais à travers ce que mes parents ont aimé.
Elle s'appelle comment ?
Esmé. Et je suis persuadée qu'elle a certains goûts qui lui sont propres, qui viennent pas de moi.
Qui viennent de vos parents ?
Ouais, bien sûr.
Vous pensez que ça infuse comme ça ?
Non seulement je pense que ça infuse, mais je pense que ça fait partie de son patrimoine génétique, en fait. Alors je sais pas si scientifiquement c'est possible, mais laissez-moi y croire.
Abba, Sleeping Through My Fingers, c'était donc Frédéric le choix de Louane.
Louane qui portera samedi soir les couleurs de la France lors de la finale du concours de l'Eurovision.
Et on croise les doigts, merci Frédéric Pommier et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Du bio dans votre assiette ?
Oui, le bio dans la grande distribution sera notre dossier aujourd'hui.
À tout de suite.